Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Maxime Barbier, le fondateur et CEO du média Minute Buzz. Avec Maxime, on commence par parler de l'importance de ne pas se laisser définir par ses études et à quel point ce qui compte le plus, c'est ce que vous aimez faire dans votre temps libre. Comment ne pas s'éparpiller quand on a beaucoup de projets ou beaucoup d'idées et les méthodes à suivre pour arriver à s'organiser, mais aussi de l'importance du testing versus learning et à quel point l'action reste le plus précieux des savoirs. Maxime conclut en nous partageant ses meilleurs conseils pour toutes les personnes qui souhaitent un jour monter leur entreprise et surtout les écueils à éviter. Merci à Ingrid qui a laissé l'avis suivant sur Apple Podcasts. J'ai découvert ce podcast il y a peu, mais c'est mon nouveau compagnon dans mes heures perdues. Les podcasts sont très bien menés et les invités plus passionnants les uns que les autres. J'ai découvert beaucoup d'histoires touchantes et émouvantes où l'on se retrouve. Merci beaucoup Ingrid pour ce commentaire qui me fait très plaisir et merci à tous ceux qui prennent le temps de laisser une note et un avis sur l'application de podcast que vous utilisez. C'est vraiment ce qui m'aide le plus. Je vous dis à tout de suite pour le tout nouvel épisode d'In Power. Bonjour Maxime et bienvenue sur In Power. Je suis ravie de te recevoir.
Bah, avec plaisir.
Si jamais tu devais te définir en trois mots, tu dirais quoi ?
Tu dois me définir en trois mots. Je relirai un peu la bio que j'ai mise sur Instagram. C'est I'm just a cool guy trying to make people happy. Donc en gros, j'essaye de donner un peu de bonne humeur aux gens qui sont autour de moi parce que j'en ai à revendre.
Et t'as toujours eu conscience que c'est ce que tu voulais faire ou, parce que en fait, toi, t'es quand même maintenant un peu king des réseaux sociaux, tu vois. Et non, mais je me suis dit, quand t'étais enfant, tout ça, ça n'existait pas.
Oui.
Donc. Est-ce que tu savais ce que tu voulais, enfin, ce que tu voulais faire quand t'étais enfant, tu savais que ça devait être
est-ce
dans le divertissement ou...
En fait, après coup, si tu retraces un peu mon histoire, oui, tu peux dire qu'il y avait des trucs qui faisaient croire. J'étais toujours, je suis toujours de bonne humeur, j'ai toujours le sourire, je suis toujours joyeux, j'ai plein d'énergie. Donc déjà très petit, j'étais un peu, tu vois, le petit enfant qui faisait les blagues, qui faisait rire tout le monde. Donc oui, le divertissement, ça a toujours fait un peu partie de moi. Après, de dire que j'allais en faire un média, non, parce que j'étais quand même une quille en français. Je devais avoir 7 au bac. J'étais très mauvais en orthographe, donc de me dire que j'allais faire un média, non. Non, Minibuzz nous est un peu tombé dessus. Mais bon, je pense que rien n'arrive par hasard et que c'est une succession de choses qui ont fait que j'en suis là maintenant.
Et est-ce que, quand tu étais dans le système scolaire... tu étais, on va dire, bien épanoui, tu voyais là où tu voulais aller ou... Parce que généralement, c'est aussi un pattern que je remarque, tu vois, chez les entrepreneurs, c'est genre, ils étaient un peu hors de l'eau.
Ouais, carrément, carrément. J'ai détesté l'école, vraiment, assez violemment, pour plein de raisons, mais quand j'étais au collège, j'ai redoublé à cause d'une matière qui était l'allemand, une matière que mes parents m'ont un peu imposée, parce que, tu sais, dans les classes allemandes, c'est là où il y avait soit les meilleurs élèves.
Ouais, bah c'est ce que j'ai fait aussi.
Voilà, j'ai détesté cette langue, violemment, j'en ai fait un rejet, et j'en ai tellement fait un rejet que j'avais 2 de moyenne ou 1 de moyenne, ça fait que j'ai redoublé, donc j'ai haï ce système où j'ai vu mes potes partir, tu vois, une année au-dessus, et moi rester sur place, donc déjà, collège, très compliqué, et après, j'ai complètement lâché. Et heureusement les maths m'ont un peu sauvé au lycée, mais quand je suis arrivé après en post-bac en école de commerce, j'ai dit mais en fait ça sert strictement à rien ce que je suis en train de faire. J'ai vraiment pas aimé quoi.
Ouais.
Pas aimé. Après j'ai eu la chance de monter ma première boîte à 18 ans, donc j'avais un truc pour penser à côté autre chose et commencer à créer de la valeur et apprendre, mais je suis vraiment anti-système scolaire.
Et qu'est-ce que tu réformerais si jamais tu en avais l'opportunité dans le système
J'ai vu qu'il y avait 2-3 trucs qui commençaient à arriver. Déjà, le choix de pouvoir choisir mieux ses matières et de pas d'avoir des matières imposées. Parce qu'en fait, moi, je suis assez convaincu que mieux vaut être très fort dans là où tu es fort et pas essayer d'être bon partout, parce que tu deviens au final moyen. Donc déjà, ça, choisir ses matières. Après, au final, moi-même, je me forme en fait avec YouTube. Tous les matins, je regarde 30 minutes de vidéos et en fait... tu te rends compte que l'école, elle est en ligne, elle est partout, et que t'as pas besoin d'aller dans une salle de classe et juste apprendre bêtement des choses pour les recracher un mois après lors des examens et les oublier tout de suite à la sortie de l'examen. Je trouve que on a ce côté où on valorise les gens qui ont une capacité à retenir les choses et à juste, tu vois, faire des dissertes, mais en fait, la vraie vie, c'est pas ça, quoi. Et surtout, moi, je l'ai vu en sortant d'école. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir déjà ma boîte, donc voilà, mais j'ai vu mes potes autour de moi se prendre une énorme claque en arrivant sur le marché du travail, où on pensait que, regardez, j'ai pas plus 5 embauchés, moi. Mais non, ça marche plus du tout comme ça, quoi.
Limite, c'est l'inverse. Moi, j'entends des histoires qui donnent froid dans le dos de personnes qui ont genre 2 super diplômes, tu vois, de polytechnique ou de je ne sais quelle autre école, et qui en fait ne trouvent pas de travail parce qu'ils sont surdiplômés.
Mais ça, oui, ça,
et c'est grave un revers de notre système qui est vachement élitiste, ouais. Quoi.
Bah c'est un revers du truc. C'est aussi le fait que la plupart, comme tu dis, des gens qui sont à la tête d'entreprise, c'est des gens entrepreneurs qui sont plutôt hors système scolaire et qui. Enfin, moi, je sais que quand je fais des entretiens, mais jamais de la vie, je demande ce qu'il a fait comme études, quoi. Ouais. C'est pas ça qui m'importe.
Bah, en fait. Je voulais te demander d'ailleurs plus tard, mais vu qu'on en parle, qu'est-ce que tu regardes en premier quand tu embauches quelqu'un?
Est-ce qu'il a la patate? J'aime bien quelqu'un qui a de l'énergie, de la pêche, parce qu'en fait, on est dans des sociétés et dans des entreprises, enfin encore plus dans les startups où t'as intérêt à avoir la gouache et une bonne humeur et une énergie, parce que ça change tout le temps. Chez Minebuzz, on cultive cet ADN du changement, donc il faut avoir l'énergie à revendre. Et après, je regarde est-ce que la personne est passionnée, est-ce que fondamentalement c'est quelque chose qu'elle a envie de faire. Et pas être chef de projet parce qu'elle a fait des études de gestion de projet ou tu vois, c'est aller un peu plus loin que ça et c'est surtout parler de ses passions. Moi, il y a une question que j'aime bien, c'est en gros, parle-moi de toi sans parler de tes études. C'est assez marrant parce que dès qu'on parle pas des études ou du travail qu'on fait, ça amène sur d'autres sujets. Ou une question que je pose souvent aussi, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie qui ne sert pas à gagner de l'argent? Je trouve que cette question, elle amène sur des sujets assez intéressants.
Ce qui est assez triste au fond, je trouve, parce que c'est généralement, comme tu dis, ce qui anime le plus les gens. Et ça serait bien si c'était leur moyen de gagner de l'argent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que c'est dans les entretiens, généralement, c'est là où ils vont me dire, ben, je sais pas, je suis passionné de photos, ou moi j'adore
voyager. Et pourtant, il va être comptable parce qu'il faut qu'il gagne sa vie.
Parce qu'on leur a pas dit que c'était possible, en fait, d'en vivre.
Mais enfin, deux choses là-dessus. La première, c'est qu'on vit quand même dans la plus belle époque qui existe de l'histoire de l'humanité. C'est que maintenant, quand t'es passionné de quelque chose, tu peux en vivre, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit en lançant ton podcast. Enfin, maintenant, trouve ce qui te passionne et va à fond. Et grâce à Internet, on a vraiment des moyens maintenant d'en vivre. Et la deuxième, que je trouve assez vrai, c'est que je trouve qu'à partir du moment où t'arrives le lundi et que tu fais putain vivement vendredi, ou que t'aimes pas te lever le matin, c'est qu'en fait, t'es sur un chemin qui est pas cool, quoi. Et la vie, je pense, alors c'est bien gentil de dire ça, et je pense qu'il y a plein de gens qui vont dire vas-y, t'es qui pour dire ça, mais travailler tous les jours en se demandant, tu vois, c'est pas ce que j'aime, c'est pas ma passion, et pourquoi je fais ça, mais c'est long, quoi, la vie, elle est longue, quoi.
Ouais. Mais c'est vrai que je pense qu'il y en a pas mal. Ce serait quoi, peut-être, le premier conseil que tu donnerais aux personnes, peut-être, qui nous écoutent et qui sont dans ce cas de figure-là, mais en fait, même si tu le sais, tu sais pas forcément quoi faire?
Je pense que le plus important, c'est de trouver ce qui te passionne. Alors après, c'est aussi pour ça que les études peuvent servir à ça. Tu vois, quand t'es en école de commerce ou en école, tu rencontres plein de gens, tu fais plein de conneries, tu fais plein de choses, ça te permet un peu de découvrir tes passions. Mais le plus important, c'est de trouver ce qui te passionne. Donc pour ça, il faut faire plein d'expériences, il faut tester des choses, et il faut surtout sortir un peu de sa zone de confort. Je pense que c'est ça le plus compliqué pour la plupart des gens. Et une fois que t'as trouvé ta passion, c'est mettre tout en œuvre pour essayer d'en vivre, en fait. Et tu peux avoir un job pour payer ton loyer, et c'est super important que tu payes ton loyer et tes factures, ok, fine, mais en fait, il te reste du temps le soir et le week-end, et donc à toi de reprioriser un peu les choses de ta vie pour commencer à aller dans ce sens-là. Et en fait, avoir de la consistance, c'est ce qui peut faire qu'après, à terme, tu arriveras à pouvoir switcher.
Totalement. Qui, tu dirais, a eu la plus grande influence dans ta vie?
Faut que je dise papa et maman, sinon... Si jamais m'écoute.
Il
m'a
envoyé un petit email ou un petit texte.
Non, moi, la phrase que j'aime beaucoup, c'est t'es la moyenne des 5... les chiffres varient, mais t'es la moyenne des 5 ou des 6 personnes que tu fréquentes le plus. Donc, en fait, il y a eu des gens qui ont eu énormément d'impact dans ma vie à différentes époques, que ce soit évidemment mes parents, mais qui ont eu un impact sur moi sans forcément celui qui était voulu. Le fait de toujours m'embâcher à l'école, c'est important, l'école c'est important, justement j'ai fui ça et je suis dans une autre direction qui est très bien maintenant. Ça peut être les filles avec qui je suis sorti, ça peut être ma petite sœur, ça peut être une chose. Après, à date, en ce moment, j'ai des personnes autour de moi qui me font grandir, comme Seb, mon coloc, ou mon associé, ou les gens avec qui je travaille. Et depuis maintenant que j'ai passé 30 ans, parce que j'ai plus de 30 ans, j'ai 33, depuis 3 ans, je suis à fond dans le développement personnel et je m'inspire énormément de mes mentors digitaux. Donc j'ai décidé de choisir des mentors qui, bon, ils savent pas que j'existe, mais moi, je les regarde tous les jours, comme Gary Vee, Simon Sinek, Tony Robbins, c'est des gens que je suis et que j'écoute de manière très assidue, et en fait, c'est un peu mon école à moi, quoi.
C'est marrant, c'est que les Américains. Est-ce que tu penses qu'on manque de mentors en France ?
Non, je pense qu'il y a... Non, des mentors, il y en a plein. Après, c'est très différent. Les mecs aux États-Unis, ils adorent se montrer, ils sont médiatiques, tu vois, ils font des vlogs, etc. Nous, les mentors français, c'est plutôt des entrepreneurs, c'est plutôt des gens qui sont plutôt discrets. Donc, tu peux avoir des mentors en France, il y en a plein. C'est juste que c'est plutôt du one-to-one dans un café et tu vas pas... Ils vont pas avoir un fan club et ouais, dire tout ce qu'ils font. Après, moi, je suis assez... je pense que je suis né dans le mauvais pays. J'aurais dû, franchement, naître aux États-Unis. Je suis vraiment plus adapté à cette culture-là. Et donc, voilà, j'ai fait mon choix de suivre ces gens-là parce qu'en fait, la donnée est accessible. Mmh. À la différence, tu vois, j'en sais rien, un Xavier Niel ou tous ces grands patrons de start-up, bah, ils communiquent pas, ils donnent pas d'infos. Donc, à moins de les connaître personnellement, bah, tu peux pas avoir accès à leur savoir. Donc, c'est ça qui fait la différence.
C'est vrai. Et tu t'es posé la question ou pas de... partir aux États-Unis ou de lancer ta boîte aux États-Unis?
C'est prévu, c'est un jour.
Okay.
Un jour, j'irai tenter cette aventure américaine, ouais, clairement. À chaque fois que j'y vais, j'étais encore au F8, là, en mai, c'est... Ouais. J'adore ce pays. Il y a plein de problèmes, il y a plein de défauts, il y a plein de trucs qui sont vraiment horribles. Que ça soit vraiment trop drivé par l'argent, très superficiel, la pauvreté. Enfin, je suis à San Francisco, c'est hallucinant ce côté où d'un côté t'as des startups avec des mecs super blindés, puis t'as des quartiers où il y a des clochards à tous les coins. Ouais, donc il y a plein de trucs qui déconnent dans ce pays, mais. Mais j'aime cette culture quand même de la win, tu vois, cette culture où en fait on a envie que tu réussisses, on pousse les gens qui réussissent, tu peux être plus toi-même, tu peux...
Bah en fait, le succès est moins mal vu, on va dire.
Ouais, il est moins mal vu, il fait même, enfin limite, tu vois, quand quelqu'un a un succès, c'est un succès pour la nation, tu vois, limite,
ouais,
tu vois, je trouve ça assez cool.
Et tu te sens pas un peu différent, parce que moi j'étais à Berkeley au semestre dernier, et bah en plein cœur de la Silicon Valley, tu vois, et je trouve quand même que... Même si moi aussi j'admire cette mentalité, le fait d'être française, intrinsèquement, c'est dur de fitter. Je me sentais pas à ma place, tu vois. Et alors que je pensais vraiment que j'allais être comme un poisson dans l'eau aussi, parce que c'est très voilà, entrepreneurial, ils soutiennent beaucoup, mais c'est un peu vraiment chacun pour sa gueule, très superficiel, comme tu dis, très...
Oui, il y a beaucoup de Français qui reviennent au bout de 3-4 ans.
Je trouve ça dur, en fait, d'adhérer à 100%.
En vrai, j'ai pas dit que
sur le long terme,
j'ai pas dit que j'y vivrais toute ma vie. J'ai 33, je pense qu'à un moment, j'irai, et que c'est pas à 50 ans que j'irai tenter l'aventure. Je pense que j'irai faire 10 ans. Après, j'ai fait des summer camps, j'ai vécu à Miami pendant 6 mois.
Donc, tu sais déjà,
j'adore.
Quoi. Ouais,
j'adore.
Non, mais clairement, je pense
oui, il y a plein de trucs qui manquent. Enfin, j'adore le vin rouge, j'adore les façons qu'on a, nous, les Français, d'être potes ou, tu vois, d'échanger et tout ça. C'est sûr que ça, tu le retrouves pas là-bas. Mmh. Donc, je pense que c'est des périodes, mais je suis assez attiré par ce pays. Ouais.
Si jamais tu pouvais dîner avec une personne, n'importe qui, ce serait qui?
Là, aujourd'hui, ce serait mes trois. C'est soit Simon Sinek pour sa vision du monde de l'entreprise et du management qui est juste hallucinante. Et sinon Gary Vee, parce que pour moi c'est lui le king des réseaux sociaux. Franchement c'est incroyable ce qu'il arrive à faire. Et le troisième, ce serait Tony Robbins, parce que je pense que c'est le meilleur coach en développement personnel qui existe, et je prendrais bien un dîner avec lui pour lui parler un peu de moi, quoi. Pour lui parler un peu de moi, dire voilà, j'ai ça, ou j'ai des questions, qu'est-ce que t'en penses, comment tu peux m'aider, quoi.
Donc, t'as vu son documentaire sur Netflix?
Ouais, I'm not a guru, ouais.
Ouais, c'est assez dingue, mais comme tu dis, ça c'est très américanisé aussi, quoi.
Bah oui,
en France, on fait un documentaire sur un mec de développement personnel, mais tout le monde.
Bah, il y a.
Je suis un peu, quoi.
Il y en a 3-4 mecs.
Je sais
plus comment ils s'appellent, mais on les voit, sauf que oui, même moi j'ai cette remarque, c'est qu'en fait d'un coup, c'est un peu plus ridicule.
Ouais. Là, c'est des cultures différentes.
Mais c'est comme le cinéma américain versus le cinéma français, c'est, tu vois.
Voilà. Un gouffre.
Mais après, il y en a pour tout le monde, tu vois, et je pense que c'est la France est aussi géniale sur plein de sujets. Et...
Ouais, c'est vrai. Mais comme tu dis, ça peut être un temps pour tout, quoi.
Voilà, ça fait 15 ans que je suis adulte en France, et j'aimerais bien faire 10 ans aux États-Unis.
J'ai lu dans une interview aussi à propos de toi, je crois qu'il parlait des débuts.
Regardez, t'as cherché mon.
Bah quand même, je fais mon travail de mon côté. Et ça parlait de l'avant Minute Buzz ou du début de Minute Buzz. Et c'est quelqu'un qui disait Maxime avait, il y a toujours énormément d'idées. Du coup, il multipliait les projets et il s'éparpillait. Il parlait au passé, donc comme quoi c'était plus le cas. Et du coup, je me suis demandé qu'est-ce qu'il t'a fallu pour t'en rendre compte? Et quelle stratégie t'as un peu adopté pour y remédier? Parce que je pense que c'est un problème que beaucoup des personnes qui nous écoutent peuvent rencontrer.
Là, comme ça, je dirais la maturité quand même. Je prends de l'âge, hein. J'avais 25 ans quand j'ai monté Minebuzz, j'en ai 33. Mais la vraie raison, je pense, c'est des grands coups dans la gueule. Que ça soit des bad buzz, que ça soit des moments difficiles, que ça soit plein de choses qui, en fait, t'obligent à grandir. Je fais partie des gens qui ont une force d'avoir une énergie incroyable et plein d'idées, sauf que c'est aussi une faiblesse parce qu'en fait, bah, comme t'as plein d'énergie, bah, tu testes 1000 trucs à la fois et t'épuises un peu les gens qui sont autour de toi. Comme t'as plein d'idées, bah, t'as toujours envie de faire autre chose, t'as des problèmes de focus. Donc voilà, donc en fait, les erreurs, les moments durs t'obligent en fait à grandir là-dessus. Depuis deux ans et demi, trois ans maintenant, je suis vraiment sur le développement personnel. Je suis vraiment très attentif à la productivité, à comment mieux m'organiser. Donc tu vois, moi qui disais, je comprends pas les gens qui écrivent, qui lisent. Maintenant, je me suis mis tous les matins dans ma morning routine, j'ai 10 minutes de lecture, je commence ma journée toujours par écrire à la main mes 5 to-do de la journée, etc. Donc en fait, il y a une image qui me vient, je sais pas pourquoi je pense à ça, c'est que je sais que mes parents, quand j'étais petit, ils me disaient toujours fais ton lit, j'ai jamais fait mon lit. Et un jour, j'écoutais un podcast d'un militaire assez connu qui disait, en gros, je fais mon lit tous les jours parce qu'au moins j'ai fait une chose dans ma journée.
Yannick Agnel disait pareil sur le podcast.
Et en fait, c'est ouf parce que t'as beau tes parents qui peuvent te dire, c'est la même finalité en fait, c'est de faire ton lit, tu vois. Et en fait, ça peut changer complètement ton angle. Donc moi, à un moment, j'étais là, non mais lire, ça sert à rien, à écrire, je comprends pas, etc. Et à partir du moment où en fait, t'en vois l'intérêt et tu t'en sers comme un bénéfice, bah d'un coup, ça vient tout seul en fait.
Surtout que pour le coup, si jamais t'es partisan entre guillemets de l'école de la vie, je trouve que les livres, c'est un des plus beaux moyens pour apprendre. Enfin, je dis, tu vois, c'est une telle ressource. Et t'apprends tellement que tu lis un livre.
Alors pour mon défaut, c'est que je lis essentiellement des livres de dev personnel ou de management ou de, tu vois, des trucs qui servent mon business.
Parce que,
ouais, j'apprends clairement. Après, je trouve ça un peu lent. Parce qu'en fait, lire, c'est lent. Même
bah,
si
c'est sûr que jamais t'habitues à la vidéo.
Voilà, après, j'ai mes ma demi-heure de vidéo tous les jours qui. Ça, et maintenant les podcasts, je suis à fond sur les podcasts.
Bah, pour le coup, si t'es dans la productivité et tout, c'est clair que moi, les podcasts, je trouve que c'est le meilleur moyen. Livre, vidéo, podcast confondu. Moi, je prends le podcast parce que quand tu marches, quand t'es dans les transports, quand tu prends ta douche, tu vois, c'est ce que je dis tout le temps aux gens que j'essaie de convertir un peu au podcast. Parce que c'est vrai qu'à prime abord, je pense qu'il y a encore l'image de la radio un peu old, que aucune vraiment personne dans une génération.
C'est pour ça que les podcasts
s'explosent. Écoute.
Parce que les gens se rendent compte que tu peux faire deux choses à la fois.
Ouais, c'est ça, tu peux apprendre tout en faisant quelque chose qui te prend du temps.
Enfin, faut avoir des choses à faire et qui demandent pas trop de concentration, comme marcher, tu vois, dans le métro.
Un truc qu'on fait tous en soi. Qu'on peut pas vraiment retirer de notre journée. Enfin, tu vois, faut quand même qu'on bouffe, faut quand même qu'on marche, non, tu vois, qu'on se déplace.
Ouais.
Donc, ouais.
Tout à fait.
Est-ce que tu peux me dire aussi, enfin, tu peux nous parler du moment où vous avez partagé un article ou une vidéo et où vous vous êtes dit, ok, là, on tient vraiment quelque chose.
Bah, je vais plutôt te parler du moment vidéo parce qu'en fait, on est le premier média à avoir fermé son site internet en 2016, qui a été. Le truc le plus couillu et le plus intéressant qu'on ait fait de notre histoire. Alors, c'est pas en une journée, mais c'est juste qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un changement des usages. Moi, mon vrai truc, ce qui m'anime en fait, dans mon quotidien, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui captive l'attention de ma génération. Et en fait, bon, les réseaux sociaux, ça, tout le monde le sait. Et en 2015, j'ai commencé à voir des choses différentes dans mon flux Facebook. J'ai commencé à voir que mon attention, et en tout cas, switchait, que j'avais de moins en moins sur les sites, que j'avais de plus en plus de vidéos. Et en début d'année 2016, je dis, écoute, faut qu'on ferme le site, je le sens pas, je pense qu'il faut aller à fond sur la vidéo, etc. Donc on a discuté, un peu de compromis au début, et jusqu'à dire, ok, on y va vraiment. Bon, le jour J, on était un peu, on savait pas trop ce qui allait se passer, mais on y allait à fond, quoi. Donc c'était pas en une fois, mais c'était un sentiment très fort et franchement imperturbable, parce que tu vois, mes commerciaux, ils disaient, mais attends, le site, on fait du chiffre d'affaires, pourquoi tu veux le fermer, viens, on fait un peu des deux, etc. Mais il y avait un truc en moi qui était absolument serein sur le fait qu'il fallait y aller à 100%.
Déjà, est-ce qu'à l'époque vous étiez présent sur les réseaux sociaux comme, enfin, pas dans la mesure où vous l'êtes aujourd'hui, mais est-ce que vous aviez déjà vos pages
Oui.
Voyez que ça marchait mieux en fait.
Donc, bah, en fait, après il y a eu des indicateurs, c'est pas non plus un truc qui m'est venu en me levant le matin, mais on faisait 20-25 millions de visites par mois, et puis d'un coup, fin 2015, sans rien changer, le nombre de visites diminuait, on sentait qu'il y avait un truc qui se passait, on avait des Américains faire des changements aussi, donc si tu veux. Il y a tout plein de choses qui nous ont aiguillés, mais le vrai truc, c'était à un moment, c'était irrationnel. Sinon, en fait, il faut y aller, quoi.
Ouais. Tu disais aussi dans une interview, il n'y a pas de succès sur les plateformes sans une stratégie de contenu musclé. Qu'est-ce que tu sous-entends par là?
Que sur les plateformes, en fait, les plateformes ont quand même changé pas mal la donne, parce qu'on est passé d'une ère où sur Google, tu allais chercher l'info, donc tu tapais des mots-clés, tu te retrouvais sur des sites. C'était une époque où, j'en sais rien, tu tapais Minute Buzz ou Le Figaro et t'allais de toi-même sur la home voir ce qui s'y passait. Là, on est arrivé dans un monde de flux, de push. Sur Facebook, quand tu ouvres ton Facebook, Facebook a quand même entre 25 et 30 000 contenus à t'afficher en premier, tellement il y a de choses autour de toi qui se passent. Donc si tu n'as pas une stratégie bien claire de ce que tu es, de ta édito, si tu n'as pas une stratégie de volume, parce qu'en fait, maintenant, poster une vidéo par mois sur Facebook, tu ne vas pas aller très loin. Quoi.
Ouais, Mais à contrario, non, quand tu postes trop, tu risques aussi de...
Ça, c'est une certitude, c'est un mythe, en fait. En fait,
ouais, il y a tellement maintenant de...
Il y a plein de trucs, c'est...
D'hypothèses et de conspirations.
Ouais, mais les gens, ils lisent trop les titres d'articles, de trucs spécialisés, et ils ne sont pas dans le truc pratique. Quoi. Ouais. À un moment, si tu veux savoir si c'est vrai, vas-y, poste 20 vidéos en une journée, tu verras si ça change quelque chose. Quoi. Comme il y a des horaires pour poster, c'est mieux de poster le vendredi à 17h, mais en fait, pas forcément, tu vois. Comme il faut poster des vidéos de moins d'une minute, sinon ça ne marche pas. Enfin, il y a plein de certitudes dans tous les sens. Déjà, il n'y a aucune règle réelle parce que les algorithmes s'adaptent en fonction des fans, en fonction de ta communauté, en fonction de plein de choses. Donc, il n'y a qu'en testant qu'on peut savoir. Donc musclé, stratégie. Moi je pense qu'il faut poster tous les jours, qu'il faut poster le plus possible et que la seule limite doit être ta créativité et ta qualité. C'est-à-dire que nous, Minute Buzz, on a la chance de pouvoir poster 600 vidéos par mois parce qu'on a les ressources pour pouvoir le faire. Demain, tu lances ton blog, tu peux pas poster 700 vidéos sinon tu vas poster n'importe quoi. Donc en fait, le but c'est d'aller à poster le plus possible. Donc soit de manière créative, c'est-à-dire qu'il y a des manières très créatives de pouvoir poster plein de contenu. Par exemple, moi quand je faisais à l'époque, j'avais fait un vlog, donc je faisais des vidéos de moi tous les jours. Là typiquement, on aurait été là, on aurait pu faire un podcast, plus une vidéo d'une heure, plus t'aurais découpé les meilleurs moments pour en faire des posts Instagram.
Je l'ai vu parfois, voilà, mais donc, là j'avais envie de te dire, moi les biens, on sort le trépied et tout.
T'aurais pu, ça ne dérange pas. Et donc voilà, donc soit t'es créatif pour augmenter ton volume tout en restant cool, soit t'as des moyens, mais... voilà, donc en fait les gens disent ouais, poster tous les jours, mais si je poste tous les jours, je vais poster n'importe quoi. Bah oui, bah t'es pas prêt à poster tous les jours, ouais. Mais il faut que tu tendes vers ça en fait. Un contenu sur Facebook, il a une durée de vie de 3 jours.
Ouais,
et les stories, on est quand même dans une époque où on demande à des gens de créer des contenus qui disparaissent.
Ouais, c'est dur ça aussi.
Moi je trouve ça génial parce qu'en fait, et même quand j'ai fait tous les workshops Instagram, quand je suis allé à Londres au QG de Facebook et tout, faire les colloques, les mecs ils disent, mais tous les grands médias du monde qui sont sur Instagram, les mecs ils y vont à l'iPhone, ils dessinent à la main, ils mettent des tags, enfin tu vois, ça change complètement la donne.
Les gens recherchent beaucoup plus, je pense, le côté authentique et proximité plutôt que forcément la surqualité du montage. Donc, tu vois, comme tu dis, maintenant on va privilégier des contenus auxquels on s'identifie.
Les gens sont trop fancy, les gens sont trop romantiques, les gens ont trop peur de ce que... Il y a trop d'ego en fait. Mmh. Je vois plein de gens qui disent « Ouais, je vais faire mon podcast. » Bah vas-y, ouais, mais je sais pas quel micro acheter. Mais prends ton iPhone, prends ton dictaphone et vas-y quoi. Mmh. Pareil, à l'époque, quand je faisais mon vlog, les gens disent « Ouais, mais toi t'as les moyens, mais mon vlog, j'ai fait 100 épisodes, donc pendant 100 jours, un peu plus parce qu'il y a les week-ends, donc pendant, je sais pas, 5 mois, 6 mois, j'avais une vidéo qui sortait tous les jours de 15 minutes, donc tu vois. » Et je dis, les 50 premiers, je les fais à l'iPhone, moi-même, monté sur, je savais un peu gérer photo, Adobe Premiere, tu vois, mais même sur iMovie, tu fais bout à
c'est
bout.
Clair.
En fait, ce qui est important, alors la forme, c'est top, mais le fond est clé, quoi.
Ouais. Ça, je pense que c'est vraiment une barrière que les gens se mettent. De se préoccuper de
ouf, c'est
vrai. Enfin, en fait, je pense aussi c'est des excuses, mais une peur qui doit être légitime, qui est je vais être en concurrence avec des contenus hyper quali. Et c'est vrai que même moi, parfois, j'ai du mal à me dire maintenant ça va, j'ai un peu travaillé dessus, mais de me dire je vais être associée en fait à ce contenu, j'ai pas envie qu'il ne reflète pas.
C'est
le perfectionnisme, mais en fait, j'ai travaillé dessus parce que je me suis rendu compte que vraiment, quel que soit ce que tu fasses, c'est le message derrière qui compte.
Ouais, mais franchement, moi, je suis convaincu que c'est de l'ego, c'est la peur de ce que les gens vont penser. Quand on est sur les plateformes, c'est quand même la dopamine, l'ego trip, c'est les likes, c'est les commentaires. Tu vas poster un contenu, tu te prends un commentaire d'un mec qui dit que c'est de la merde ce que tu fais, et tu vas y penser pendant une heure, tu fais putain, c'est vrai et tout, qu'est-ce qu'ils pensent les gens. À un moment donné, il faut juste y aller, quoi. Et surtout, les gens oublient que le plus important, c'est une courbe d'apprentissage. Tous les meilleurs podcasteurs, les meilleurs instagrammeurs, tu regardes leur premier truc, c'est nul à chier, quoi. Mmh. C'est les podcasts que j'écoute en ce moment qui déboîtent, et les premiers, c'était dictaphone, il n'y avait pas de jingle au moment où ils commencent. Et en fait, tu t'améliores, tu te professionnalises, tu regardes, tu...
C'est ça qui est important. C'est mieux, parce que du coup, tu as une marge pour toi de progression.
Donc tu vois, par rapport à ceux qui ont du mal à trouver leur passion, Je pense qu'il y en a plein qui, par exemple, là on est sur un podcast, tous les jours, il y a des gens qui viennent me voir, je veux monter mon podcast, blablabla. J'ai fait une annonce sur mon statut Facebook la dernière fois, et je dis ouais, est-ce qu'il y en a qui s'intéressent pour lancer des podcasts, que nous on a des projets. J'ai eu une centaine de mecs qui sont
venus. Incroyable. Nus.
Bon après, il y a pas mal de gens sur mon réseau, mais ouais. Et les gens, ils se disent mais pourquoi vas-y, qu'est-ce que tu veux faire et tout, donc on parle, et je dis bah on a un pilote. Mm. Et les mecs, ils y vont pas, parce que tu vois, ah, un pilote, mais comment ? Je fais, mais envoie-moi un truc au dictaphone, on s'en fout, quoi. Et en fait, je pense que le mec, il prend le dictaphone et il doit le faire. Puis après, il doit l'écouter, il se dit, ah, c'est passé bien.
Ouais.
Déjà, un, t'en sais rien. Ouais. On est quand même sur les réseaux sociaux, c'est pas toi qui décides si c'est bien ou pas, c'est les gens, quoi. Tu peux mettre ta vidéo, tu vois les taux de complétion, à quel moment les gens ils quittent la vidéo, tu peux tester différents formats, donc... Faut y aller, quoi. Toi qui cherches ta passion, qui écoute ce podcast, juste lance-toi. Et les podcasts, c'est un truc qui est en train d'exploser, donc... Vas-y, quoi, tu ouais. vois. Et après aussi, ouais, mais je sais pas comment on fait pour diffuser. Bah, tu vas sur un truc qui est incroyable, qui s'appelle Google. Tu fais comment diffuser un podcast, ça va t'emmener sur des trucs qui sont Pipa, ouais. Stitcher ou machin, et tu vas, quoi.
Ça change la vie, je trouve, de se rendre compte qu'on peut être autodidacte. Comme tu dis, on a tellement eu l'habitude de, tu vois, passer par l'école, ce qu'on nous apprend et tout. On oublie qu'on est des êtres autonomes. Et même moi, au début, j'en étais victime, tu vois, de me dire « Oh, mais je sais pas monter, je sais pas filmer, tu vois, je sais pas faire tout ça. » Et en fait, c'est traîner avec des ingénieurs quand j'étais à Berkeley qui m'a fait réaliser qu'eux, ils ont vachement ce réflexe. À chaque fois qu'ils savent pas faire un truc de dev, tu vois, la plupart du temps, ils le tapent sur Google et t'apprends.
Les devs font beaucoup ça, ouais.
Et moi, je te jure, ça a été ma révélation. Parce que t'as cette espèce de flemme de dire « Bah non, je sais pas faire, pourquoi j'apprendrai ouais. ?» tu vois.
Après, c'est aussi, faut pas oublier que le cerveau est designé pour que tu souffres le moins et que ça soit le moins compliqué pour toi. Donc, c'est des systèmes aussi d'autodéfense de dire... J'ai envie de lancer, ah ouais, mais attends, mec, t'arriveras jamais à faire un montage, c'est super compliqué. Et en fait, tu te convaincs toi-même de ça, et c'est ça qui te permet de rester dans ta zone de confort.
Donc, pour en revenir à Minute Buzz, parce que du coup, vous, votre modèle, c'est vraiment d'être que sur les réseaux sociaux. Et je me demandais, est-ce que parfois, t'as pas l'impression, je sais pas si c'est le bon terme, mais d'être un pantin, en fait, parce que vous dépendez à la fois totalement de Facebook, mais aussi des marques qui, en soi, vous font vivre, donc... Et je me suis dit, est-ce que parfois, ils vous imposent pas votre contenu ? Et je crois que j'avais lu un ancien rédacteur de Combini qui disait même que ça pouvait aller jusqu'à de l'autocensure. Il disait, à propos de la Coupe du Monde du football au Qatar, on voulait faire un article concernant les conditions de travail sur les chantiers. La rédactrice en chef a refusé parce que Coca n'aurait pas accepté un tel sujet.
Pas de chance. Ouais. Combini. plusieurs choses. Un, on est toujours dépendant de ses clients, quelque part. Parce que le but, c'est de faire des produits qui... satisfasse les clients et de faire que le client est content, parce qu'un client content, c'est le nerf de la guerre, parce qu'un client qui n'est pas content ne te rachète pas, te fait une mauvaise pub. Donc nous, chez Minbuzz, on a un énorme focus sur la satisfaction client, c'est le premier truc. Donc quel que soit ton business, que tu en aies chaussures, du brand content, de toute façon, à un moment, tu dois dealer avec des clients. Mmh. Et pour la dépendance des plateformes, faut savoir que généralement, tu es dépendant de Google ou tu es dépendant de Facebook, c'est à peu près les deux, ils ont 90% du marché publicitaire hein, quand même à eux deux. Donc, moi, j'appelle ça une dépendance maîtrisée. Oui, quand Facebook dit, bah, maintenant, on va tous à droite, bah, oui, tu vas à droite. Quand Facebook dit, il faut faire des vidéos courtes, tu fais des vidéos courtes. Quand 6 mois après, il fait, bon, en fait, j'ai changé d'avis, on va faire des vidéos longues, bah, tu fais des vidéos longues. Donc, c'est aussi pour ça, c'est chez nous, il y a une vraie culture du changement.
Ouais.
Mais je préfère être là où est l'attention des gens et jouer dans ce bac à sable plutôt que de me battre à contre-courant. Tous ces médias qui sont pleins des changements d'algorithmes perpétuels qui font qu'ils ont de moins en moins de clics, moins en moins de choses. Je dis oui, mais déjà, vous payez pas Facebook, donc franchement, arrêtez de vous plaindre.
C'est déjà pas mal, ouais.
Et de deux, ouais, Facebook le dit depuis des mois, il veut plus que les gens sortent de chez lui, il veut des contenus natifs, il veut la vidéo, la photo, donc arrête d'envoyer des clics pour essayer de les faire sortir, ça ne marche pas. Donc, voilà, donc c'est aussi vraiment jouer et respecter les règles du jeu là. T'es pas chez toi. Voilà, c'est, tu vois, t'as chez quelqu'un, il dit enlève tes chaussures, tu vois, fais ça, tu fais pas le con, sauf que bah, ça crée du business.
Ouais.
C'est aussi pour ça qu'on a été un exemple pour Facebook lorsqu'on a annoncé la fermeture du site. On est un média qui est rentable depuis 5 ans, donc je pense qu'il y a peu de médias qui sont rentables et on est rentable en étant 100% en plateforme.
Et ça, est-ce que tu ouais, t'en avais conscience en lançant un média que c'était très dur d'être rentable, ça t'a...
Non, j'avais aucune conscience de rien du tout à 25 ans, j'étais un peu jeune et con, même si je suis encore un peu jeune et con. Minbus, c'était un blog que j'ai lancé à côté. On avait lancé une autre boîte avec mon associé sur un truc à rien à voir. On s'est plus ou moins planté. Donc, on a récupéré Minbus en disant, OK, ça faisait quand même du trafic. On pourrait peut-être faire quelque chose. Donc, c'est vraiment un concours de circonstances qui font qu'on est dans l'univers des médias. Souvent, hein, moi j'ai plein de potes entrepreneurs, des fois je fantasme un peu sur leur boîte tech, SaaS qui sont avec des business récurrents, qui font des millions d'euros de chiffre d'affaires, et génial, ils sont valorisés de ouf. Mais les médias c'est plus compliqué, c'est différent, mais ouais, les médias sont réputés pour pas être très rentables.
Ouais, non, mais c'est vrai que moi aussi j'en ai pas forcément conscience parce que, en fait, limite, nous c'est ce qu'on voit le plus, tu vois, on voit pas les boîtes tech dont tu parles. Limite, je trouve ça beau en fait, parce qu'au moins tu touches les gens du quotidien, tu vois.
Ouais, bah on touche 10 millions de personnes par jour, donc après, tu sens que t'as un petit impact. Alors après, les gens nous critiquent souvent, mais nous on le dit au effort, notre pourquoi en fait de la boîte c'est prendre plaisir à divertir, donc on est vraiment là pour divertir et apporter un peu de légèreté dans ce monde, quoi.
Qu'est-ce qui va venir à ton avis après la vidéo? Parce que j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, historiquement, tu vois, il y a toujours eu un peu un nouveau moyen d'expression qui est apparu. Mmh. Ça a commencé avec un peu la radio, après la télé dans une moindre mesure. Je pense que les blogs, ça a été un gros changement. Sauf qu'en fait, à chaque fois, ils sont un peu mis de côté, tu vois. Il y a quelque chose d'autre qui arrive.
Les YouTube et Facebook vidéo mettent de côté la télé. Les podcasts vont mettre de côté la radio. C'est juste la même histoire qui se répète et qui se suit.
Ouais. Tu penses qu'il n'y a pas de nouveau...
En fait, pour l'instant, le seul truc de nouveau qui peut avoir, c'est une rupture technologique. On pensait que ça allait être la réalité virtuelle, mais pour l'instant, ça ne l'est pas forcément.
Même les messageries d'intelligence artificielle, tu vois, ça marche pas.
Ouais, mais ça, si tu veux, ça va juste accélérer des choses qui sont actuelles, mais ça va pas changer fondamentalement les choses. Non, ce qu'on voit, c'est que les stories commencent à prendre de plus en plus d'ampleur, donc on va arriver de plus en plus dans des créations de contenu éphémères qui disparaissent. Tout ce qui est assez immersif quand même, que ce soit les vidéos 360, les trucs, la réalité, pas la réalité augmentée,
la réalité virtuelle.
Réalité augmentée, excuse-moi, plutôt que réalité virtuelle, non, réalité augmentée. Donc il y a ces choses-là qu'on voit arriver, mais là je pense que le gros truc qui va vraiment faire boom, c'est les podcasts.
C'est cool.
De dire ça sur un podcast.
Ouais, c'est plutôt lourd. Mais je me demandais du coup, c'est un peu lié. Parce que je voyais que c'est assez incroyable, on s'en rend pas compte, mais les chiffres de croissance de YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat et tout, ils sont de moins en moins importants, voire même certains, je crois, qui sont en décroissance. Et est-ce que tu penses qu'il y a... Moi, c'est un peu le truc là avec lequel je me pose, il n'y a pas un next big réseau social, tu vois, qui se profile à l'horizon?
Bon, déjà, il faut faire gaffe avec... on dit que les chiffres baissent... Facebook fait une croissance... insolente.
Ok. En permanence. Nous voilà rassurés.
Il y a peut-être Snapchat qui déroute un peu, mais même YouTube, c'est des boîtes qui sont des mastodontes. Après, moi, ce que je pense, c'est que tant qu'on aura des Zuckerberg ou les mecs de Snapchat, enfin, les fondateurs sont toujours en place et qui seront assez vifs pour récupérer les business. Demain, Musical.ly, on pensait que ça allait cartonner, sans faire acheter. En fait, la survie de ces grandes boîtes, ils ont tellement de cash, mais tellement de cash. Facebook, c'est incroyable, ils ont des milliards d'euros de bénéfices, ils savent même pas quoi en faire, quoi. Donc à un moment donné, il y a un réseau social qui cartonne. Dès que le réseau a atteint 100 millions d'utilisateurs actifs, puis un chèque de 1 milliard, merci, au revoir, et voilà, tu vois. On dit que Facebook est mort, mais on oublie que Facebook c'est Messenger, 1 milliard d'utilisateurs, c'est WhatsApp, c'est Instagram, c'est monstrueux.
Ils ont réussi à rebondir en fait,
à racheter tout ce qui marche.
Et comment est-ce que tu te tiens informé de tout ce qui se fait sur le digital, par exemple ce qui explose à l'étranger ou les prochaines tendances entre guillemets, parce que ça doit être quelque chose, enfin, à mon avis, tu dois assez faire régulièrement, mais comment tu t'en sors un peu dans le flux d'informations? Est-ce que tu vois, t'as des routines comme tu disais, où chaque jour tu checks ce qui se fait? Est-ce qu'on te fait des reports?
Mes 30 minutes de vidéo par jour le matin m'aident quand même pas mal. Quand je regarde Gary Vee, par exemple, tu vois, il est quand même vachement en avance sur ce qui se passe. Donc, généralement, il avait parlé des podcasts l'année dernière, donc voilà. Ensuite, je regarde pas mal de news US. Parce que pareil, ils ont un temps d'avance. Mais l'autre chose que je fais le plus, c'est que je pratique. C'est-à-dire que j'ai fait un vlog pendant 100 jours. Là, j'ai fait 2 épisodes de podcast. Moi, j'en ai fait moi. Je suis assez convaincu qu'il faut revenir au niveau zéro quand tu veux comprendre quelque chose. Donc, au lieu de comprendre les podcasts en essayant de lire que des articles, j'ai décidé d'en faire.
Mais pour même découvrir, entre guillemets, les podcasts, c'était un truc. tu l'as bien lu.
Bah, tu le vois, tu... en fait, ouais. Tu le sens. Après, il faut juste ouvrir ses yeux. Mais bon, après, j'ai la chance d'avoir 5000 amis sur Facebook, qui est aussi un bon panel de ce qui se passe. Je rencontre énormément de gens du métier, donc t'ouvres, t'écoutes. Puis tu
c'est
vois.
Juste être aware, quoi.
Ouais, être aware, ouais. Être aware, et puis surtout. Tester, c'est-à-dire que bah, moi j'ai installé l'appli podcast, tous les jours je regarde qui est-ce qu'il y a dans le top 100, je me suis forcé à écouter certains podcasts, à comprendre, et puis d'un coup tu te prends au goût, puis à un moment où tu prends goût, bah, tu te dis en fait t'en vois partout, et puis tu te rends compte du truc, après tu rencontres, j'ai rencontré pas mal d'acteurs du truc, on discutait avec eux, tu vois c'est ça en fait, mais ouais. C'est vraiment le, il faut faire quoi, soi-même quoi, ouais. Faut arrêter de lire les grands titres.
C'est une belle leçon. On entend aussi beaucoup de choses à propos du storytelling. Je pense que c'est un truc que vous maîtrisez pas mal. C'est quoi pour toi en fait le storytelling et comment on peut apprendre à le maîtriser?
C'est comment mettre en image ou comment raconter sa vie ou raconter quelque chose. C'est ça le storytelling. C'est quand t'es bon en storytelling, t'as une façon d'écrire ou de mettre en image la réalité, tu vois. Mm.
Et pour toi, est-ce que c'est quelque chose que vous faites chez Minibuzz ou...
Bah nous, on aide les marques en fait à prendre la parole sur les réseaux sociaux. On aide les marques à capter l'attention des jeunes en créant du brand content, des vidéos. On les accompagne énormément sur ça. On a une agence qui s'appelle La Fuse Électrique qui permet de faire ça aussi en marque blanche. Et pour ma part, oui, je le fais énormément parce que c'est clé, tu vois, d'avoir un Instagram qui a un peu de sens. C'est pareil aussi, être attentif à... Tu vois, je vois trop sur Instagram des stories qui sont juste pixelisées, crades, mal cadrées. Tu vois, c'est des détails, mais c'est des trucs qui on pense qu'il n'y a que les influenceurs qui ont besoin de storytelling, mais en fait, on fait tous du storytelling à notre niveau. Mmh. Je vois dans la rue des gens qui ont peut-être 200 amis, mais qui mettent 10 photos avant d'avoir la bonne photo. Tu fais plutôt des check-in quand t'es dans des restaurants sympas que quand t'es dans un restaurant pourri. Donc en fait, on storytell tous notre vie. Sauf que en fait.
Enfin, là, c'est même plus du storytelling, j'ai envie de dire. C'est essayer de donner la meilleure image possible, mais je sais pas si
les
c'est comme ça que moi
c'est...
je voyais du storytelling, tu vois.
Non, mais les réseaux sociaux, c'est du storytelling. Tous les gens qui sont sur Instagram, implicitement, c'est du storytelling. Donc, en fait, pour toi, quand tu mets un filtre sur une photo, je suis désolé, c'est du storytelling. Mmh. Tu choisis le filtre, tu choisis la photo, tu choisis la baseline, tu choisis le truc, tu choisis le machin. Tous les photos de bouffe quand t'es au restaurant, c'est pas un truc pour un mémo pour plus tard faire le truc chez toi. C'est juste parce que t'as envie de montrer aux gens, tu vois, c'est... Toutes les photos que tu postes en permanence reflètent ce que t'es. Moi, je pense que, enfin, pour moi, les réseaux sociaux sont notre carte d'identité. Sinon, pourquoi on serait chier à poster tout ça, quoi.
C'est sûr. Est-ce que quand tu recrutes des gens, tu vas checker maintenant leur Insta ou...
Non. Enfin, déjà, je fais plus trop les recrutements, mais non.
Donc ça va, parce que moi, je pense que dans une certaine, enfin, je sais qu'il y a des boîtes qui le font, parce que comme tu dis, c'est devenu un peu une carte d'identité.
Ah bah après, oui, c'est sûr que si dans ton Instagram il est public qu'il y a que des photos de beuveries cheloues, bizarres, oui, c'est sûr que c'est pas un bon truc pour aller en entretien, quoi. Demain, à tous ceux qui sont en phase d'entretien, je vous conseille pendant les phases d'entretien d'au moins mettre en privé vos comptes, quoi. C'est la base.
C'est ça, juste une petite semaine.
Ouais, mais ça, voilà, tu vois. Ouais. Parce que tu peux voir des trucs et avoir un a priori sur une personne.
Imaginons demain, tout s'arrête, Facebook fait faillite. YouTube ferme, il n'y a plus de réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu fais?
Bah déjà, j'espère que j'aurai le temps de le voir venir quand même. Après, si ça se fait en une journée, je pense que ça sera l'état de guerre dans plusieurs pays.
Ça y est, on cherchait la côte de la troisième guerre.
Ouais, après, notre expertise, c'est pas les réseaux sociaux, notre expertise, c'est de savoir capter l'attention. On l'a fait historiquement avec des articles, on l'a fait que sur Facebook, maintenant on le fait sur Instagram, on le fait en vidéo, là on va le faire peut-être en podcast, etc. Donc, demain, si tout ça s'en va, je me pencherai en alerte rouge. Où est passée l'attention des gens, tu vois? Où est mon attention?
Donc tu resterais vraiment sur ce créneau-là? C'est ce qui te passionne?
Ouais, c'est ce que je sais faire. C'est ce que je sais faire.
Mais ça répond pas à la question, ça.
Bah non, parce que je sais pas. Ouais. C'est-à-dire que demain...
Enfin, non, mais ma question, est-ce que c'est ça qui te passionne?
Ouais.
Tu m'as répondu, c'est ce que je sais faire.
C'est ce que je sais pas, c'est ce qui me passionne. Okay. À date, c'est ce qui me passionne.
Tu aurais pu dire, je casse tout.
Ce qui me passionne, c'est de parfaitement comprendre l'époque dans laquelle je vis. C'est pour ça que, je sais pas, quand je vois que les mecs en Suède, ils se font implanter des puces dans le bras, ça m'excite. Tu vois. En fait, c'est des trucs, je sais pas, c'est. Ou quand je dis qu'il y aura bientôt plus de voitures dans Paris et qu'on sera tous avec des petites navettes et qui bougent dans tous les sens, tu montes, tu descends, en fait c'est tout le monde pense que ouais c'est extrême, c'est too much, mais en fait j'ai l'impression que c'est ça vers quoi on va et ça m'excite de réfléchir à ce truc là, tu vois.
Ouais, un peu hacker notre époque, quoi.
Ouais, comprendre comment marchent les podcasts ou Instagram, c'est pas que un business en fait, c'est comprendre comment. Enfin, tu vois, c'est quoi? C'est la moitié de la. Enfin, la moitié de, du temps qu'on passe dans nos journées, il est passé sur ces trucs-là, quoi. Enfin, peut-être pas la moitié, mais dès qu'on prend notre téléphone, qui est maintenant notre plongeant dans notre main, dedans, c'est que les réseaux sociaux.
C'est clair. Si jamais on avait pu te donner 3 conseils avant de lancer dans ton entreprise, t'aurais aimé que ce soit lesquels?
Choisis bien tes associés. Ou en tout cas, choisis bien les gens à qui tu vas donner du capital. Je trouve qu'il y a une erreur qui est trop souvent faite, c'est que quand ta boîte elle vaut zéro, bah, tu donnes des 1% par-ci, 1% par-là, parce qu'en fait ça vaut zéro, mais tu le payes après. Et l'association, c'est le truc le plus compliqué. Je pense que la plupart des boîtes qui se plantent, c'est vraiment souvent lié à des problèmes d'association. Donc en fait, vraiment prendre du temps, je pense que c'est un vrai conseil que je me serais donné. Alors après, c'est pas forcément un conseil que je me suis donné, mais j'aimerais bien le donner quand même aux gens qui écoutent, c'est que on est trop dans une époque où on pense que les entrepreneurs, c'est des rockstars, c'est génial d'être entrepreneur, tout le monde va être entrepreneur, ouais, entrepreneur c'est la vie, moi je vais être entrepreneur, et tous les mecs qui sont entrepreneurs, ils mettent dans leur bio, je suis CEO et tout. En fait, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il faut avant tout avoir une idée et être passionné par quelque chose. Et je pense que la finalité, c'est de faire une entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment, tu dois gagner ta vie, embaucher des gens. Ok, donc tu fais une entreprise. Mais il ne faut pas mettre la chair dans les bœufs à juste vouloir être entrepreneur. Dis-moi, ok, je suis entrepreneur maintenant. Alors qu'est-ce que je vais faire? Non, ça ne marche pas comme ça. Et je pense que c'est dommage parce que les gens oublient à quel point c'est dur. Enfin, les gens oublient, non, ils ne savent pas à quel point c'est dur, à quel point. Bah, tu sacrifies une grande partie de ta vie, à quel point il se passe plein de choses dures quand tu montes ta boîte, et en plus si t'arrives à la faire marcher, parce que 80% des boîtes crachent au bout de 2 ans. Que si t'es pas vraiment passionné et que t'es juste là pour être entrepreneur, je pense que c'est chaud. Ça, c'est le deuxième. Et le troisième, c'est faire du sport.
J'aime bien. Je crois que donc, ouais, tu nous disais que t'es assez adepte des morning routines. Elles consistent en quoi exactement ta morning routine?
La morning routine, c'est l'idée de maîtriser un peu la première heure de ta journée pour après ensuite conquérir ta journée. C'est de vraiment prendre une heure pour toi le matin en te réveillant et non pas te lever en speed, manger en speed, courir. Enfin, tu vois, te prendre la journée en pleine tronche. Quoi, l'idée, c'est vraiment de prendre ton temps et d'avoir une sorte de séquençage de choses qui te font du bien. Donc prendre le jus de citron en te réveillant pour réactiver ton estomac, faire ta petite session de sport de 5 minutes pour te challenger un peu ton corps, te programmer 10 minutes de lecture, parce qu'en fait t'as jamais le temps de lire et ça te fait chier et tu sais pas quand lire le soir ou le week-end, bah là au moins tous les matins c'est fait. C'est toute une série de choses que tu mets en place et chacun, ça varie en fonction des personnes. Il y a des jours où bah, tu te lèves, t'as pas envie de la faire, et puis il y a des jours où tu te lèves, t'as envie de la faire, mais au moins d'avoir une certaine consistance dans ce que tu fais le matin qui te donne une vraie énergie et une vraie façon positive d'attaquer ta journée. Il y en a qui courent 10 km le matin, ok, moi le matin c'est no way, je peux pas faire de sport, ou en tout cas pas courir 10 bornes à jeun, mais le fait d'avoir mis ça, ça me structure, ça m'a vraiment structuré énormément et ça m'apporte énormément de plaisir.
Si jamais tu pouvais emmener 3 trucs sur une île déserte, ce serait quoi?
Une femme, de quoi manger jusqu'à la fin de ma vie, et un bateau qui va vite.
C'est sympa. Et j'ai une dernière question pour toi. Si jamais tu devais jouer le rôle de mentor, là tout de suite pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aurais envie de dire avant tout à nos auditeurs, tu vois, ou si jamais tu devais écrire quelque chose en grand sur un panneau?
Voilà, une de mes phrases préférées, c'est « Trouve un travail que t'aimes et tu ne travailleras plus jamais de ta vie », de Confucius. Après, en mentor, c'est très spécifique, je pense que ça dépend de plein de choses, en fait. Ça dépend de la personne, ça dépend de la situation, ça dépend de ce qu'elle veut, mais tu vois, on a donné énormément de conseils, là, depuis le début du podcast, mais c'est « trouve ce qui te passionne, sors de ta zone de confort ». Ces trucs qui sont assez clichés, au final, qu'on entend 1000 fois et qu'on voit des centaines de fois en photo sur Instagram, mais c'est des trucs qui sont assez vrais, et je trouve que, bon, à force de les dire, les gens, ça les imprègne plus, quoi. Mais c'est vraiment ça, c'est fonce, parce que de toute façon, tu vas te planter, plante-toi le plus tôt possible, et mieux ça sera. Et surtout, ouais, laisse pas passer ta vie à côté, quoi. Tu vois,
moi,
y a trop de gens que je vois qui sont malheureux dans leur couple, malheureux dans leur job, qui postent tous les 3-4 matins vivement qu'on fasse un tour du monde. Bah, tu veux faire un tour du monde, fais-le, quoi. Enfin, tu vois. Après, c'est facile à dire, et je sais qu'on est vachement critiqué, tu vois, en France, on est vachement critiqué quand on gère ce genre de choses. Mais va en maison de retraite, parle aux vieux, et tu verras que ce qui est le pire, c'est le regret, quoi, je pense. Et arriver en fin de vie et te dire que t'as regretté, c'est horrible, quoi. Mais moi, déjà, à mon âge, je regrette des choses que j'ai pas pu faire. Donc maintenant, je me dis no way, quoi. Maintenant, je ferai tout ce que je peux faire, quoi.
Déjà, je trouve, ouais, ça rencontre le plus tôt possible. Ça te laisse. Enfin, en fait, je pense qu'il faut aussi peut-être passer par là. Tu vas passer par quelques étapes où tu te dis putain, j'aurais peut-être dû faire ça.
Ouais, voilà. Mais.
Et là, t'as une prise un peu de conscience. Et c'est souvent, pour avoir écouté des gens sur le podcast et tout, souvent quand il t'arrive quelque chose vraiment de.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Tu vois, de grave. Mais
c'est horrible.
C'est dommage d'attendre ce moment-là.
Ouais, en fait. C'est dommage d'avoir un accident de voiture pour te rendre compte que la valeur de la vie, tu vois.
Ouais, ouais.
Alors après, c'est des beaux mots mis bout à bout, mais c'est, je pense qu'on ne devrait pas aller au bureau avec une boule au ventre. On ne devrait pas faire un truc qui nous convient pas et être dans une situation égale. On ne devrait pas rester avec quelqu'un alors qu'on sait qu'il nous tire vers le bas. Tu vois, c'est des choses... Je pense qu'il faut revenir à un côté
courage,
pratique.
En fait, hein.
À un moment, c'est bien aussi d'être égoïste et de penser à soi. Parce que si déjà tu arrives à être heureux toi-même et à déjà comprendre ce que tu veux, et bah, la vie elle sera plus simple.
Et sûrement, tu rendras les gens plus heureux aussi.
Tout à fait.
Bah, merci beaucoup, Maxime,
avec
d'être venu sur InPower. Et merci de nous faire rire au quotidien. Où est-ce qu'on redirige les gens qui souhaitent en savoir plus sur toi ou sur
Bah, vous pouvez taper Maxime Merville sur Facebook ou Instagram. J'ai une page et un compte assez actif. Et bientôt des podcasts.
Génial. Je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Merci beaucoup à toi, Maxime.
Merci beaucoup de nous avoir rejoints dans cet échange. Si l'épisode vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant directement sur l'application de podcast que vous êtes en train d'utiliser et pour ne pas rater les prochains épisodes qui sortent chaque semaine. Merci à vous et je vous dis à mardi prochain pour le nouvel épisode d'InPower.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to. Courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.